Ouvrir le détroit d'Ormuz n'est pas la fin de la crise. Urée, pétrole, gaz et même aluminium et de manière indirecte. La situation en termes de prix va rester compliquée, même plusieurs semaines après la réouverture du détroit d'Ormuz. Chers amis, je vous explique tout dans cette nouvelle édition du Fast and Forex. Sur le plan fondamental et aussi sur le plan technique, y a-t-il vraiment une alerte rouge sur le prix de l'énergie, sur le prix de l'engrais urée et sur le prix de l'aluminium? Vous allez voir, beaucoup de choses fausses sont dites, alors passons en revue la réalité des faits fondamentaux et techniques.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, bienvenue, nouvelle édition du Fast & Forex. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque mercredi. Donc, nous faisons de la prospective. Le détroit d'Ormuz réouvert. Non, jour 1, ce n'est pas la fin de la crise. Puisque déjà le détroit reste fermé plusieurs semaines. Et quand bien même serait déclaré jour 1, jour réouverture du détroit, les choses prendront énormément de temps. Lorsque vous écoutez, qui s'exprime de manière publique, les patrons des boîtes du Golfe Persique, enfin les entreprises du secteur de l'énergie, donc tout autour du Golfe Persique, tout pays confondu, mais ce sont surtout les directeurs d'usines de pétrole et gaz, en particulier des Émirats Arabes Unis, qui ont pris la parole et qui le disent tout simplement. Vous savez, mettre une usine à l'arrêt, c'est pas un interrupteur on-off. Mettre une usine à l'arrêt, derrière, pour relancer la machine, ils parlent pas en nombre de jours, en nombre de semaines. Ça m'a surpris, mais c'est en nombre de semaines. Mais très bien, vous remettez votre usine en fonctionnement. Derrière, il y a les terminaux, il y a tout le transport maritime, il y a toute la machinerie maritime, les marins, les assurances, tout ça va prendre du temps. Donc oui, les difficultés vont persister. Après, certaines choses sont exagérées. Moi, vous me connaissez, je ne suis pas, pas un oiseau de mauvaise augure, parce qu'il y a une réalité des faits, mais pas un catastrophiste, pas un fin du mondiste, si vous voulez, qui vous explique que c'est fini, aucun retour en arrière n'est possible, et que déjà c'est la fin du monde. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il suffit de regarder l'action des prix, il suffit de regarder les graphiques pour voir que la situation est complètement différente. Si vous regardez le prix du pétrole, ok, très bien, il est en zone d'alerte rouge. Le prix du gaz, le prix de l'aluminium, le prix de l'engrais urée. Donc si vous voulez, selon moi, ce sont les quatre matières premières stratégiques directement impactées par la fermeture du détroit d'Ormuz. Alors attention, c'est faux pour l'aluminium, puisque l'aluminium ne passe pas par le détroit. Oui, l'aluminium ne passe pas par le détroit. En revanche, pour le produire, il faut de l'énergie. Et ce prix de l'énergie, pétrole et gaz, augmente significativement. Pourquoi ? Parce qu'une grande partie de l'électricité est produite à partir du pétrole et du gaz, en énergie primaire, et que sans électricité, pas d'aluminium. Voilà. Bon. Donc, effectivement, c'est probablement parmi tous les métaux industriels, celui qui est le plus impacté, beaucoup plus que le cuivre, par exemple. Donc, si vous voulez, je mettrai pétrole en numéro 1, gaz naturel, le GNL, le gaz naturel liquéfié en numéro 2, l'engrais urée. Alors, les médias en parlent un peu moins. Ce qu'il faut savoir, c'est que 50% des exportations de cet engrais, qui est un engrais azoté, donc c'est fabriqué à partir du gaz naturel. De nombreuses cultures en ont besoin. Ça représente même pour certaines cultures, j'ai regardé les statistiques, pour notamment le blé et le maïs par exemple, jusqu'à 40% des coûts variables. Alors, il y a des stocks. Les stocks, ça peut être 20, 30, 40 jours. Donc déjà, on écoule les stocks acquis au prix précédent. C'est pour ça aussi que le facteur temps va jouer. Parce qu'à un moment ou un autre, ces stocks, il faut les reconstituer. Et donc, à un prix de l'urée qui peut être supérieur. Et là encore, vous allez voir, l'urée, oui, il a rebondi en bourse. Ah, il est même sur TradingView, l'urée. Il a rebondi en bourse depuis le début des opérations militaires. Mais il est archi bas. Il est en baisse de 50% depuis son sommet qui a suivi les semaines du déclenchement de la guerre en Ukraine. Donc, je vous le dis tout de suite, En ce moment, il n'y a pas d'alerte rouge technique sur l'urée. Ça va peut-être venir. Mais là, il n'y a pas d'alerte rouge technique sur l'urée. Bon, vous avez compris. Urée, pétrole, gaz, aluminium, ouvrir le détroit d'Ormuz n'est pas la fin de la crise. Je vous explique tout sur le plan fondamental et sur le plan technique. Urée, pétrole, gaz, aluminium, ouvrir Ormuz n'est pas la fin de la crise. Chers amis, bienvenue. Je déclare cette nouvelle édition du Fast and Forex ouverte. Le plan s'affiche sous vos yeux. Je ne voulais pas donner en introduction. Je vous invite à lire. Nous allons faire les choses par étapes. On resitue un peu ce que représente le détroit d'Ormuz et le détroit de Bab el-Mandeb. Alors, pour l'avoir en tête celui-là aussi. Urée, pétrole et gaz, les difficultés vont persister même après la réouverture du détroit. Même avec la réouverture du détroit, les prix peuvent rester élevés plusieurs semaines. Où en sommes-nous sur le plan technique? Et vous allez voir que la situation entre le pétrole, le gaz et l'urée n'est pas la même. Aluminium, il ne faut pas s'exciter non plus, et vous allez comprendre pourquoi. L'enjeu post-Hormuz sera l'évolution de l'inflation énergétique et probablement surtout l'évolution de l'inflation alimentaire. Les anticipations d'inflation nominale explosent à la hausse, par contre pas l'inflation sous-jacente, qui elle est sur les services, et là elle est très calme. C'est là aussi il peut y avoir peut-être une lueur d'espoir sans vendre du rêve. Je vous rappelle les principaux, choc points maritimes du commerce mondial. Donc, il y en a 10. Et il y en a un qui est compliqué, forcément, le détroit d'Ormuz. Bon, très bien. Donc, pétrole, gaz, pétrochimie, engrais, vous connaissez ces chiffres, 15-20% du pétrole mondial, 20-25% du GNL mondial, ça, tout le monde a compris. N'oublions pas ce détroit qui n'est pas très loin. Ce détroit qui n'est pas très loin. Alors là, il faut un peu décaler vers la droite, mais c'est pareil, on s'en fout. Celui-ci, il faut se méfier, sait-on jamais, si il devait aussi devenir une zone compliquée. Aujourd'hui, maintenant, plus tard, peu importe. Là, pour le coup, si vous voulez, si vous associez un blocage sur le détroit de Bab el-Mandeb et le détroit d'Ormuz, autant vous dire que là, le débat sur quelle est la probabilité d'une récession économique ces prochains mois, il n'y a même plus débat. Bon, en tout cas, une fois ces choses rappelées, urée, pétrole, gaz, les difficultés vont persister même après la réouverture du détroit d'Ormuz, car oui, le détroit réouvrira et réouvrira totalement. Mais donc, projetons-nous, c'est l'objectif. Pourquoi le jour 1? Pourquoi le jour 2? Pourquoi même la semaine 1? Pourquoi même la semaine 2? Pourquoi même la semaine 3 de réouverture du détroit d'Ormuz? Probablement après un impact initial favorable sur les prix. Mais dans un second temps, les prix pourront remonter pour un certain nombre de raisons. Déjà, il faut rappeler ce que ça représente. Rapidement, parce que ce sont des choses maintenant que tout le monde commence à connaître, mais c'est toujours intéressant. Ce que représente le détroit d'Ormuz pour les exportations mondiales. Alors, il ne faut pas aller chercher. Certains commencent à dire oui, tous les métaux, le monde entier, le prix de la télévision, le prix du pneu. Rien non plus. Je dirais que trois matières premières sont vraiment impactées par le détroit d'Ormuz. Le pétrole, c'est une évidence. Le gaz naturel liquéfié, le GNL. Le GNL est une évidence. Mais je vous rappelle que le GNL, c'est 20% du gaz mondial. Et le détroit, c'est 20% des exportations de GNL. Donc, 20% de 20%, ça fait 4%, et non 5. Voilà. Urée, l'engrais urée, là, c'est intéressant, puisque vous avez 30 à 35% des exportations mondiales d'urée qui transitent par le détroit. L'urée représente en moyenne 20% des coûts variables. Alors, ça, c'est une moyenne pour différentes cultures. En ce qui concerne le blé et le maïs, là, j'ai mis n'importe quoi. Pour le blé et le maïs, on estime que c'est 30 à 40% des coûts variables qui dépendent directement du prix de l'urée sur les marchés. Donc là, pour le coup, si vous voulez, autant je trouve que sur le gaz, les choses restent sous contrôle et on le voit sur le plan technique. Sur le pétrole, vous le savez, nous sommes en alerte rouge technique depuis longtemps, même en zone de choc inflationniste. Je vais vous remontrer la cartographie technique plus tard. L'urée, c'est majeur, c'est probablement peut-être même le numéro 1. Avec derrière pour les perspectives d'inflation, comme il y aura un retard parce qu'il y a des stocks d'urée. Ça dépend des pays, mais à l'échelle du monde, il y a un mois et demi de stock duré. Donc, quand ces stocks vont arriver très bas, qu'il faudra non seulement les reconstituer, mais qu'en plus, l'urée, c'est un flux continu. C'est un flux, on consomme en continu les flux importés. Donc là, les prix augmentent sur le marché mondial, hein, puisque heureusement que l'urée ne passe pas que par le détroit d'Ormuz à l'échelle du monde. Donc, le prix d'acquisition augmente, et viendra un moment où cette engrais acheté à un prix plus élevé va venir impacter le prix des denrées alimentaires, le prix des cultures et donc des denrées alimentaires, tout le chemin qui mène jusqu'à la distribution de l'agriculture au distributeur. Et ça arrivera avec retard, ça va être une difficulté. Bon, deuxième difficulté, vous connaissez l'Asie. C'est l'Asie, l'Asie dépend du détroit. Que ce soit pour le pétrole, le gaz naturel ou l'urée, c'est l'Asie à 80%. L'Asie, c'est le moteur du commerce mondial, c'est le moteur de l'économie mondiale. Ok, très bien, bon, bah ça, pour le coup, c'est majeur. La vraie difficulté, elle est là. Le temps de normalisation du transport après la réouverture du détroit d'Ormuz. Donc ça, c'est basé à la fois sur les études et sur les déclarations des patrons des entreprises autour du Golfe Persique. Beaucoup s'expriment. Et lorsque vous faites la synthèse de ce qu'ils disent, vraiment sur le plan industriel, sur le plan logistique, eh bien, pour le pétrole, ce sera minimum 2 à 6 semaines pour relancer la logistique. Du monde d'avant les opérations militaires du 28 février. Pour le gaz, 1 à 3 mois, car c'est beaucoup plus rigide, notamment pour relancer les terminaux. Et en ce qui concerne l'urée, 1 à 3 mois. 1 à 3 mois pour reprendre le flux d'exportation du monde d'avant. Donc, déjà, si vous voulez, déjà, il faut une réouverture complète du détroit d'Ormuz. Ensuite, ce temps de normalisation du transport, c'est après réouverture complète à 100% du détroit. C'est-à-dire que vous ajoutez 1 mois, 2 mois, allez, de 1 mois et demi à 3 mois après une réouverture complète. Déjà, il faut que la réouverture soit complète, et ensuite vous ajoutez 1 mois et demi à 3 mois de difficultés. Donc là, on part sur un trimestre après la réouverture, avec des prix qui peuvent rester à un niveau élevé. Sachant que 1 à 3 mois avec des prix qui peuvent rester à un niveau élevé, 1 à 3 mois pour retrouver les flux d'avant, donc les volumes d'avant, et se pose le problème des stocks. Et là, nous en avons déjà parlé dans un certain nombre d'émissions depuis un mois, et là je vais mettre en avant le stock mondial d'urée, c'est seulement 20 à 40 jours. Après, ça dépend des pays. Donc, vous voyez que même la réouverture du détroit ne sera pas la fin du problème par rapport à deux paramètres, le temps de normalisation du transport, de la remise en route de la machine industrielle, donc industrielle même pour l'urée, hein, puisque c'est produit à partir du gaz naturel, et derrière, bah, les stocks qui malheureusement vont être en conflit avec ce temps de normalisation. Donc les choses vont de toute façon rester complexes. Après, bien sûr, à partir du moment où le détroit est ouvert, chaque jour qui passe améliore la situation. Mais chaque jour qui passe améliore la situation, le problème c'est que le temps joue déjà contre nous, et que ce temps de normalisation, eh ben, sera encore aussi une difficulté à gérer. Donc là, je vous remets sur la carte du Golfe Persique avec toutes les raffineries, les terminaux, les pipelines, etc. Bon, vous voyez que c'est ça va, oh, tout le monde, si toutes ces terminaux, ces raffineries était positionné ici devant Oman, il n'y aurait pas de problème. Ouais, mais non, c'est devant l'Iran. Ça, c'est effectivement une difficulté. Alors, même avec la réouverture d'Ormuz, les prix vont rester élevés quelques semaines. Même avec la réouverture d'Ormuz en mode 100%, les prix vont rester élevés quelques semaines. Donc, je viens d'en parler. Déjà, il y a une reprise lente des volumes. Parce que il faut relancer la machine, il faut refaire tous les plannings, tout est désorganisé. Ça, c'est, rappelez-vous, les difficultés logistiques lorsque l'économie mondiale avait été mise à l'arrêt, enfin, avec la crise sanitaire. Là, c'est pas l'économie mondiale qui est à l'arrêt, mais c'est quand même je l'ai montré, hein, c'est 20% des exportations mondiales de pétrole, 20% du GNL, 35% de l'urée mondiale. Tout ça est à l'arrêt. Donc c'est pas j'allume pas ma lumière, voilà, c'est pas on-off. Voilà. Donc déjà, il faut relancer la machine. D'autre part, quand bien même la machine se relance, bon, là, j'avoue, je dresse un tableau négatif, mais bon, prenons les faits comme ils sont. Après, on verra bien comment les choses évoluent. Une fois que vous appuyez sur on, Imaginons que le trafic se relance, dans tous les cas, le risque géopolitique ne descend pas à zéro. Il y a beaucoup de groupes indépendants, quand même il y a un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran, il y a tellement de groupes indépendants, il y a tellement de groupes de pression, de groupes terroristes à droite à gauche capables d'envoyer des drones, que le risque géopolitique sera toujours présent. Il y aura donc une prime de risque qui va agir sur les primes d'assurance. Donc là aussi, c'est un coup. Et donc les primes ne peuvent pas retomber immédiatement au monde d'avant. Il va y avoir une contrainte d'offre, une contrainte géopolitique, une contrainte d'assurance, un temps de normalisation qui fait que même s'il y aura une réaction initiale favorable sur les prix, ils vont se maintenir à un niveau plus élevé. Donc de toute façon, nous n'échapperons pas à un rebond de l'inflation nominale. Mais ce sera provisoire. Ça, ok, ça, tout le monde sera d'accord pour dire que ce rebond de l'inflation nominale sera provisoire. Après, l'idée, c'est de savoir jusqu'où ça va aller dans l'inflation. Est-ce que ça va atteindre les services ou pas? Si ça n'atteint pas les services, par exemple l'immobilier, l'inflation sous-jacente peut continuer de baisser. Et là, ce serait une bonne nouvelle. Donc tout ça, ce sont un peu toutes les incertitudes qui nous attendent, mais c'est passionnant. Bon, dans tous les cas, le jour 1, la semaine 1, même la semaine 2 qui va suivre la réouverture du détroit d'Ormuz, eh bien, n'est pas la fin des difficultés, vraiment loin de là. Le facteur temps sera donc un problème. Et donc, ça, je voulais vous rappeler qu'effectivement, il va y avoir un équilibre à trouver entre, en tout cas, un affrontement entre des durées qui sont assez similaires, à savoir les durées de stock. Donc là, en gros, là, vous avez, je vous remonte le tableau des stocks de pétrole, mais n'oubliez pas aussi les stocks durés, qui sont d'ailleurs même inférieurs, c'est plus autour d'un mois, un mois et demi. Et face à ça, face à ce nombre de jours de consommation en termes de stock, vous avez le temps de normalisation pour remettre en route la machine industrielle, la machine de transport. Et là, le problème, c'est que même après la réouverture du détroit, ça va encore taper dans les stocks. Et qu'il est probable qu'on arrive à un moment où le détroit va fonctionner à 100%, mais les stocks seront très bas. Il y aura donc une nécessité de reconstituer les stocks, mais avec en face un volume qui sera peut-être proche de son 100% le monde d'avant les opérations militaires. Mais comme il y aura les stocks à reconstituer, la demande sera telle que ça va maintenir les prix plus élevés. Voilà. Donc la situation sera différente s'il y avait 4 ans de stock. Là, le problème, c'est que vous avez des stocks de 2 à 3 mois et une durée de normalisation post-réouverture de 2 à 3 mois. Si vous aviez 4 ans de stock et une durée de normalisation post-réouverture de 2 à 3 mois, il n'y avait pas de problème. Là, la difficulté, c'est que les durées sont équivalentes. Et c'est donc ça qui risque de mettre la. Qui va, c'est pas qui risque, qui va rendre les choses compliquées. Urée, pétrole et gaz, alerte rouge sur les prix en bourse. Alors là, justement, moi, c'est là que je vais apporter de l'optimisme, entre guillemets. Je vais vous montrer les faits techniques et la situation est moins pire, nettement moins pire que ce que certains disent, et en particulier donc sur l'urée et sur le gaz. Sur le pétrole, il n'y a pas de sujet. Sur le pétrole, il n'y a pas de sujet. Tout ce qui est au-dessus de 90 $, c'est le choc inflationniste. Entre 80 et 90, c'est l'alerte rouge technique. Pourquoi? Parce que tout 2025 était sous 80 $. Donc au-dessus de 80 $, en fait, un taux de variation sur 2026, il y a une contribution positive au prix du pétrole. Au-dessus de 130 $, là, c'est hors de contrôle. C'est pas bon du tout. Ça, de toute façon, c'est acquis, c'est acté. Ça va, ça, obligatoirement, je dis obligatoirement, l'inflation nominale rebondit. D'ailleurs, vous regardez les anticipations d'inflation nominale de l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland, qui est une des antennes de la Fed, le CPI remonte à 3,71 en avril. Là, je vous rappelle qu'il est à 2,5. Hein. Il est à 2,5. Il va remonter à 3,25, à 3,71. C'est le prix de l'énergie. Par contre, regardez, l'inflation sous-jacente, elle baisse. Oui, parce que derrière, vous avez d'autres contributions, notamment l'immobilier, les services. Eux, ils sont structurellement baissiers maintenant. Donc ça, ce sera un peu l'air qu'on nous aurons. Mais l'inflation nominale, ça va flamber. Ça va flamber. C'est obligé maintenant, ça va flamber. Mais ce sera provisoire. Bon, donc effectivement, le pétrole c'est compliqué. En plus, le pétrole, si vous mettez les graphiques en données mensuelles et l'Ichimoku mensuel, on est au-dessus du cumo, vous voyez. Donc bon, au-dessus de 90, voilà, c'est compliqué. De toute façon, il faudrait retomber autour des 80 $ pour que la situation soit nouvelle. Par contre, sur l'urée, c'est pas du tout hors de contrôle. Déjà, sur le gaz naturel, vous prenez le contrat, le TTF. C'est le contrat qui fait référence, c'est quota Amsterdam, ça fait référence pour toute l'Europe. tant que le marché se situe sous les 60 euros, il n'y a pas d'alerte rouge. Regardez, le déclenchement de la guerre en Ukraine, on était là. Là, tant qu'on est là-dessous, il n'y a pas d'alerte rouge. Et quand même on irait là, on est loin des niveaux de la guerre en Ukraine. Donc, sur le gaz naturel, nous ne sommes pas en choc inflationniste. C'est un fait. Les prix ne le sont pas. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas l'être. Là, ils ne le sont pas. Donc, le pétrole, oui. Le gaz, il faut arrêter de dire que c'est pire que la guerre en Ukraine. Et alors, pareil, l'urée. L'urée, effectivement. Donc, je vous ai montré ce que ça... L'urée, pareil, il faut arrêter d'exagérer. Regardez où était l'urée, le prix de l'urée, au moment de la guerre en Ukraine. 2800, 3200. Là, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, il a baissé de 54%. Depuis le début du conflit, les opérations militaires, il est passé de 1780 à 1950. Mais en fait, regardez, le prix de l'urée sur les marchés, il est hyper bas relativement aux 4 dernières années. Alors par contre, en cas de dépassement de cette résistance technique, ça risque de s'envoler. Et là, la messe sera différente. Elle sera dite différemment, pardon. Donc, si vous voulez, oui, pour le pétrole, il y a une alerte rouge technique. Non, pour le gaz naturel. Et absolument pas pour l'urée. Ça viendra peut-être. Donc, ceux qui disent, là, l'inflation alimentaire va s'envoler, etc., l'urée, ça s'envole, c'est faux. Oui, l'urée a monté depuis le début du conflit. Voilà, le conflit a éclaté là. Donc, voilà, il y a eu une petite hausse. Mais, malgré ce que représente Hormuz pour les exportations mondiales d'urée, ça reste sous contrôle. D'accord ? Donc, et c'est en baisse de 54% depuis le sommet du déclenchement de la guerre en Ukraine. Donc voilà, là-dessus, il faut quand même, il y a quand même des choses qui restent complètement sous contrôle. Alors, aluminium et Hormuz, attention, le lien est indirect et la tendance est déjà très haussière. Là, j'en dis un mot, pourquoi ? Parce que tout le monde, avec ce qu'on lit à droite à gauche, les gens vont finir par croire que l'aluminium transite par Hormuz. Il n'y a pas un gramme, j'exagère un peu, il n'y a pas un gramme d'aluminium qui passe par le détroit. Il n'y a pas un gramme. D'accord ? Bon, mais par contre, l'aluminium est le métal qui dépend le plus de l'électricité. Et les pays qui en produisent, eh bien, leur électricité, elle est d'origine fossile, donc gaz naturel, pétrole. Donc, oui. Et encore, le gaz naturel, je vous ai montré que c'était sous contrôle. Mais surtout, regardez l'aluminium en bourse. L'aluminium en bourse, il est haussier depuis 2023. Oui, il y a un petit impact haussier des opérations militaires contre l'Iran. Mais le problème de l'aluminium est plus profond. Il est tellement demandé, l'aluminium, dans son usage industriel, notamment en lien avec la tech, que la tendance était déjà haussière. Et il n'y a pas eu de cassure haussière avec les opérations militaires. Donc, l'aluminium, il n'y a pas de lien à faire avec la guerre contre l'Iran. Il y a un lien beaucoup plus structurel à faire, qui est le décalage offre-demande. Bien sûr que ça n'aide pas à faire baisser les prix, mais là aussi, bon, il n'y a pas de « oui, c'est haussier ». Alors, ce serait compliqué si on dépasse le record, là, ok, d'accord. Mais voilà, pour l'instant, je pense que c'est le lien est très indirect. Le lien est très indirect. Alors, moi, ce que je vais vraiment surveiller, c'est l'urée, hein, ces prochaines semaines. Si on pète ce niveau à la hausse, là, effectivement, on va commencer à rentrer dans quelque chose de plus compliqué. Mais pour l'instant, vous voyez que les choses restent complètement sous contrôle. L'enjeu porteur mou sera l'évolution de l'inflation énergétique et donc surtout alimentaire. Alors ça, ce sera finalement effectivement voilà, l'impact que cela aura sur l'inflation alimentaire. Trueflation reste sous contrôle, notamment l'inflation alimentaire. Les anticipations d'inflation nominale remontent 3,71, mais regardez, l'inflation sous-jacente, elle reste basse et elle baisse même à 2,56. Donc si c'est que l'inflation nominale qui a rebondi à cause de l'énergie et que c'est provisoire et que ça retombe et que l'inflation des services reste elle basse, évidemment les banques centrales seront pas tous sous pression et les taux pourront quand même finir par rebaisser à un moment ou à un autre. Voilà. Eh bien, chers amis, merci à toutes et à tous de votre attention et passez une bonne semaine.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.